sortir là. Allez là.
Sortez, ça fait trop du bien. Ça dégourdit les jambes, allez-y.
J'adore ça. Moi je sors tout le temps.
Mais putain, ça sort.
Je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Les t-shirts fermes, sortez.
Oui, alors oui. Franchement, c'est trop chouette. C'est en
France. La culture.
Allez-y, quoi.
Sortez.
Sortez.
Sortez, c'est
cool. Ok, vous voulez sortir?
Écoutez,
sortez.
Veuillez sortir.
Je suis chaud comme un chocolat.
Sors.
Il est 16h sur Radio Campus Tours, le 99.5 FM, et vous écoutez l'émission Sortez. Je suis comme toujours accompagné de mon acolyte de tous les jours, Marie. Salut Marie.
Salut, bonjour.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Noam, vice-président, et Dounia, présidente de l'association étudiants musulmans de France. Salut à tous les deux.
Salut, salut.
Noam, tu étais déjà venu dans l'émission il y a quelques semaines pour parler des distributions alimentaires réalisées par l'association. Comment est-ce que ça va depuis ?
Bah écoute, ça va très très bien. On a pu faire une superbe campagne, du coup Un mois et toi, et on a pu servir énormément de repas auprès des étudiants. Donc pour nous, c'est une réussite et on va très 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 bien du coup.
Et donc étudiants musulmans de France, ou EMF, c'est une association qui est présente partout en France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur son histoire et ses objectifs ?
Alors, bien sûr, EMF, c'est une association étudiante qui a été fondée en 1989, avec au départ la volonté d'apporter un cadre de soutien aux étudiants internationaux et de favoriser l'entraide, l'insertion sociale de ces étudiants et leur réussite universitaire. Tout ça dans l'esprit de bienveillance et de respect. Donc aujourd'hui, c'est une fédération à l'échelle nationale qui regroupe 25 sections un peu partout sur le territoire français, globalement dans les grandes villes universitaires. Et donc, on est une association de la loi 1901, donc laïque et apartisane. Et on a pour but d'accompagner les étudiants à travers trois grands axes. Donc, l'axe social, l'axe culturel et l'axe de représentativité étudiante.
Et alors, donc, c'est une association avec des valeurs assez fortes. Qu'est-ce que vous défendez comme principe ?
Nous, on défend des principes... de partage, d'entraide et de solidarité. On a pour cible les étudiants, donc Tourangeau pour EMF Tours. Donc on les accompagne, que ce soit, comme je l'ai dit juste avant, sur le social, sur le culturel. Donc le social, on va lutter contre la précarité étudiante qui touche pas mal d'étudiants. L'isolement social des étudiants aussi qui viennent sur Tours et qui n'ont personne et qui ne connaissent aussi pas la ville. Donc on est là aussi pour les accompagner dans leur insertion dans cette ville. Avec le côté culturel aussi, on va essayer d'un peu éveiller leur esprit critique sur des thématiques sociétales. Et avec la représentativité étudiante, on va défendre leurs droits et leur faire valoir leurs droits.
Et en tant que vice-président et présidente, quels sont vos rôles, vos responsabilités que vous avez dans l'association ?
Ouais, finis ta phrase.
Ouais, grave.
En fait, en réalité, les missions du président et du vice-président sont relativement similaires. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis vice-président, comme tu as pu le souligner, et Dounia est présidente. Donc moi, je vais assister Dounia dans les missions sur lesquelles elle n'aura peut-être pas le temps de prêter attention, ou alors peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles je serai un peu plus doué et des choses sur lesquelles elle sera un peu plus douée. Et donc, on a chacun nos qualités, chacun nos défauts, et puis on essaye de mettre ça en valeur en mettant une coopération efficace. Et concrètement, nos missions, c'est surtout du leadership. Alors, en théorie, ça devrait être uniquement du leadership, etc., etc. En pratique, on fait vraiment de tout. C'est-à-dire qu'on est amené à faire de la communication. Je sais que Dounia, par exemple, elle est beaucoup amenée à faire de la communication en ce moment. On est beaucoup amené aussi à envoyer des mails. On va dire les missions du secrétariat. À côté de ça, on fait du leadership, pardon. Et on est aussi beaucoup sur le terrain. C'est peut-être pas forcément quelque chose de général, on va dire, chez les présidents d'associations, on va dire, enfin, de manière générale, les présidents d'associations, c'est pas forcément leur mission, mais à EMF Tours, on va dire qu'on est quand même pas mal sur le terrain, on a quasiment toujours un ou deux sur une des distributions, ou alors sur un événement culturel, peu importe soit-il, et voilà, donc nos missions, elles sont vraiment très diverses et variées, on est du leadership jusqu'à, on fait un petit peu de tout, le secrétariat, on fait vraiment de tout, la communication, etc., etc.
Et j'ajoute aussi que au-delà du fait de, enfin, au-delà du leadership, une des missions aussi du président et du vice-président, ça va être surtout de représenter l'association, comme on le fait aujourd'hui ici.
De fiers ambassadeurs.
Tout à fait, c'est ça.
Et alors, donc, il y a pas mal d'actions qui sont menées et qu'on va pouvoir détailler tout au long de cette émission. Quelles seraient, selon vous, les actions phares de l'association ?
Alors, les actions phares de l'association, qu'on le veuille ou non, c'est les actions sociales, donc ce qui va être distribution. C'est le cas pour EMF Tours, mais c'est aussi le cas pour chaque section d'EMF en France, parce que c'est ce qui se fait le plus voir, c'est ce qui aide le plus de manière concrète. On voit littéralement les résultats, on reçoit des messages des étudiants qui nous remercient. Donc c'est un petit peu la façade d'EMF de manière générale, le social, ouais. Donc les distributions alimentaires qui sont globalement à titre gratuite pour les étudiants. Ou sinon on a également les markets qu'on a essayé de mettre en place dernièrement, qui sont en place également dans d'autres sections EMF en France. Donc les markets, c'est un système selon lequel les étudiants viennent en payant une somme symbolique de 2 ou 3 euros et sur plein de tables, en fait il y a plein d'aliments, etc. Ils viennent, en gros ils font leurs courses, donc ils prennent une brique de lait, ils prennent un sac de pâtes, ils choisissent un petit peu ce qu'ils veulent et ça permet en fait d'éviter le gaspillage qu'on pourrait potentiellement retrouver dans les sacs de distribution alimentaire qui sont préfaits, en évitant peut-être les allergies, en évitant peut-être ce que les étudiants n'aiment pas dans les sacs. En venant directement au market, ils prennent ce qu'ils aiment, ce qu'ils peuvent manger, en évitant également ce qu'ils ne peuvent pas manger ou ce qu'ils n'aiment pas manger. Donc ouais, les actions phares, on va dire, c'est vraiment le social.
Et donc, est-ce que vous intervenez dans tous les campus de Tours ?
Alors, on intervient sur beaucoup de campus. Honnêtement, c'est le deuxième mandat complet du coup de EMF. Sur le premier mandat, c'était très axé sur le campus des Deux Lions. Un petit peu aussi d'autres campus, il me semble, le campus de Grandmont, le campus des Tanneurs. Sur cette année, on a essayé d'être régulier et diversifié. C'est-à-dire qu'on est beaucoup sur les Tanneurs, on est beaucoup sur les Deux Lions et on est aussi beaucoup sur Grandmont. La plupart de nos événements, on les fait, socioculturels, enfin surtout culturels, on va dire, on les fait à la MDE de Grandmont, qui est vachement pratique. On a beaucoup de distributions qui se font aux Deux Lions, mais vraiment beaucoup, et beaucoup de distributions qui se font également aux Tanneurs. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, durant la campagne Un Mois et Toi, on avait du coup deux jours dans la semaine où on faisait des distributions de repas, donc une centaine de repas pour les étudiants. Le premier, c'était le lundi aux Deux Lions, et le deuxième, c'était le mercredi aux Tanneurs. Donc c'était assez régulier, assez stable, et on essaye de maintenir ce rythme durant toute l'année.
Alors on va en parler alors du coup de cette opération Un Mois et Toi. Le quotidien au sein d'EMF Tours, ça ressemble à quoi ? Donc j'aimerais bien prendre cet exemple justement. Vous avez passé un mois à réaliser des distributions alimentaires, c'était sur la période du Ramadan. Et donc à quoi ça pouvait ressembler une journée type pendant l'opération Un Mois et Toi ?
Alors une journée type, surtout pendant cette campagne, bah, déjà c'est assez sportif. Le fait de s'assurer que d'abord tout le monde est épanoui dans la tâche qui lui est attribuée, accompagner les personnes qui ne sont peut-être pas formées sur certaines tâches, et après ça va être de l'organisation pure et dure, aller faire les courses pour l'événement qui nous attend le soir même, ou pour la distribution s'il manque du pain, de l'eau, des sacs, etc. pour donner les colis, arriver en avance sur le lieu soit de distribution soit du repas, pour pouvoir mettre la table avec les bénévoles, coordonner l'organisation sur place, et ensuite accueillir les bénévoles. Donc en fait vraiment la journée, ça va commencer par des messages d'organisation sur une bonne partie de la matinée d'ailleurs, et ensuite ça va être beaucoup de rush l'après-midi entre les courses de dernière minute et l'organisation sur place, et ensuite c'est la partie la plus agréable de la journée, c'est quand les étudiants arrivent et peuvent bénéficier soit de leur petit colis, soit de leur repas.
Vous proposez de partager des repas du soir pendant le Ramadan, le Ftour, je dis bien, que vous avez du coup rebaptisé Ftour avec T-O-U-R-S. C'est sur inscription, est-ce que tout le monde peut y prendre part ?
Évidemment, oui. Je mets un point d'attention sur le jeu de mots qui est quand même formidable.
Ouais, on a beaucoup aimé.
Ouais. Il a été trouvé par nos prédécesseurs. Et franchement, c'est un très très beau nom. Donc les IF Tours, qui sont des moments collectifs, sont évidemment ouverts à tous. Donc, sont ouverts à tout type d'étudiants, qu'ils soient, peu importe leur religion, peu importe leurs origines, etc. C'est ouvert à tous les étudiants. Et d'ailleurs, durant cette campagne, on a pu avoir de tous les étudiants, des étudiants musulmans comme des étudiants non musulmans. On a pu avoir des étudiants de toutes les origines, etc., etc. Et ouais, c'est un super moment sur lequel, franchement, on retrouve une vraie ambiance conviviale, une vraie ambiance de solidarité où tout le monde se retrouve, tout le monde rigole. Et j'ai envie de dire, on laisse un petit peu nos problèmes à la porte d'entrée. Mmh. Et on arrive en fait dans une salle où juste on rigole avec tout le monde, on passe un bon moment, on s'assoit, on mange. Et puis même pour les organisateurs, je veux dire, on court partout, mais malgré ça, ça reste quand même un super moment. Et je veux dire, moi, c'est le moment de l'année préféré au sein de l'association, quoi. C'est la meilleure campagne.
Et alors, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager au sein de EMF ?
Alors, moi, je cherchais déjà à m'engager. Je cherchais quelque chose où je pourrais trouver déjà un entourage et même où je pourrais me sentir utile. Et donc, moi, j'ai une copine qui m'a dit « Viens, il y a une réunion organisée par une nouvelle association à Tours, etc. On y va, etc. » Et donc, je l'ai suivie. Et au final, j'ai tout de suite accroché à d'abord la convivialité des membres présents ce jour-là. Ce cadre qui était hyper familial. Moi, c'est ça qui m'a accroché en premier lieu. Et ensuite, les valeurs, les objectifs de cette association. Et c'est des valeurs que je partageais. Donc, je me suis tout de suite sentie à ma place et je me suis sentie assez confortable et à l'aise ce jour-là. Et donc, du coup, ça m'a juste donné envie de revenir aux événements qui suivaient et puis ensuite me présenter à l'Assemblée nationale. Enfin, à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale.
Elle a été trop vite, là.
Mais pourquoi pas un premier pas vers l'Assemblée nationale ? Du coup, dans ton cas, nous-mêmes, je dirais que ce serait quoi ?
Moi, il faut savoir que je suis... j'ai 19 ans, donc je suis en deuxième année de fac. J'ai découvert l'associatif au début de ma L1. Donc, j'ai découvert ça avec une association de Munto, c'est une association de MUN. Et EMF, je l'ai vraiment découvert par hasard parce que la vice-présidente de cette association Munto était également la secrétaire de EMFTO. Et je ne connaissais pas du tout. Et comme Dunia l'a souligné, je pense que c'est vraiment très spécifique à cette association et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent le dire à propos de leur association, mais c'est vraiment, vraiment beaucoup le cas et c'est un sentiment très, très partagé au sein de EMF. C'est que quand on arrive là-bas, on se sent vraiment au sein d'une famille. C'est-à-dire que moi, je le sens, je suis dans pas mal d'associations, l'ambiance est extrêmement différente dans chacune des associations, mais encore plus entre toutes ces associations et EMF. Parce que vraiment, il y a une ambiance très conviviale, très familiale. Je veux dire, on est tous proches les uns des autres sans même forcément se côtoyer. Et c'est le cas même à l'échelle nationale, en fait, avec toute la fédération. Et forcément, ça donne envie de s'engager. Encore plus, comme Denis l'a souligné, quand on s'engage pour des causes qui nous tiennent à cœur, en défendant des valeurs qui nous représentent. Tout ce qui va être solidarité, bienveillance, justice, etc. Entraide, c'est évidemment des valeurs qu'on aime défendre et auxquelles on est accroché. Et je pense qu'on accroche tout de suite, en fait, quand on est face à... De représenter ces valeurs-là, plus être dans un cadre qui nous plaît, c'est juste incroyable et on n'a qu'une seule envie, c'est d'y rester.
Et donc, en guise de rappel, donc en tant que loi 1901 laïque, c'est pas une association au sein duquel vous partagez des moments de culte ?
Absolument pas. Absolument pas, non.
Eh bien, merci à vous donc, pour cette première présentation. On va pouvoir y revenir juste après une pause musicale. Qu'est-ce qu'on va écouter, Samuel ?
On va écouter le titre Payback de Benny Holiday sur Radio Campus Tour.
It's curtains, I ain't beefing on the internet, I'ma see you in person. My shooters out lurking, they gon' get you for certain. Put the work in, cause I got the word, you been working. Coming around, rocking wires, they ain't gon' let me out this time. I got a lot of priors, dope seller, I got a lot of buyers. Try to take me off the streets, it's gon' be shot with fire. In the paint like a young Amari Stoudemire. Heard your new shit and I was not aspired. I sold hard and I sold soft. You caught your case and you told on your own squad. Niggas you grew up with in black and white, so everybody know you did that fuck shit. You a known rat, we don't condone that.
chrome clap, push the dome back.
Ayo, they reach me through Cerebro. God of all mutant spawn, no freak in the cathedral, I'm a warlord. Kubla Khan, teamed up with illegal, you're torn, it's a goonathon. Feeling like I'm Caesar when he launched across the Rubicon. True savant, saw villains turn lost witness. Watch them start snitching, vision in their long sentence. Flipped in court switching, looking at they dogs different. Portland vs. Wizards, back when Jordan had the guard Pippin. Guard Pippin. False idols turn to arch rivals, and oftentimes the common ties rotten moral fiber. While homicide is almost always from the squad beside you, don't be surprised when odds are sliding you to crocodiles. My style ain't smooth as it looks, still in the caravan of traps, serving units of cooks. Let them ciphers in the past, became a student of crooks. Never outshine the master's first rule in the book.
Okay, this payback was necessary. Mask on when I see you, gon' be extra scary. This tech rip, your neck rip, and exit. Show out like Netflix. Only yell I'm finna take from y'all is the Lexus. Please, run me my check when you see me. Don't make this a newscast on the TV. Please, run me my check when you see me. Don't make this a newscast on the TV.
And you turn it up a notch when I start to speak. My chest so a beast, they call me Papa Meat. Got the goons ready, they finna drop the beat. It's like you living in the streets, turn obsolete. See, I was in the deep, had to box the beast. Put him in a box with Chewbacca beast. Niggas catch disease when they copy me. Cause I'm sick and autistic, another masterpiece. I got the master key, making all these bastards bleed. Got the nerve, they asking me for fees, I'm no masterpiece. Steadily, I keep climbing like hyperinflation. Python, I'm patient, waiting for the confirmation. Crimes heinous, niggas talking out the anus. You can see my steel stainless, leave these motherfuckers brainless. Yeah, it's Jake Reaper, I'm on the precipice. Resurrect like Lazarus, second guessing the pessimists.
They call me the illest rapper in Europe. Coming to you live from the land of the tulips. The grimiest shit is what I spit with these two lips. That's how I get the bag from Paris to Zurich. These youngins OD and they ain't got the endurance. Look what these rooms do to a casual tourist. You got a big mouth but no dental insurance. I knock your teeth out, watch them land on your U-wings. My new wings, I spread them. Ops, I behead them. Meet and greet with a vest. I got fans like John Lennon. When the goons need a verse, I be on deck like a rope drum. I never rehearse, just put the mic on and smoke some. When gums turn this numb, you know where the coke's from. If you done dirt, you better tell no one. Loose lips can lead to a trip to the cemetery. I came a long way as I sit back and say, okay.
Payback was necessary. Mask on when I see you, gon' be extra scary. This tech rip, your neck rip and exit. Show out like Netflix. Only yell I'm finna take from y'all is the Lexus. Please, run me my check when you see me. Don't make this a newscast on the TV. Please, run me my check when you see me. Don't make this a newscast on the TV.
Vous venez d'écouter Payback de Benny Holiday sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Et on s'intéresse tout de suite de plus près à Noam et Dounia d'EMF Tour. EMF, elle a réalisé, donc plutôt à l'échelle nationale, une enquête sur la discrimination et l'islamophobie dans l'enseignement supérieur en 2022. Et alors, on se demandait quels étaient les résultats de cette enquête.
Alors, oui, donc comme tu l'as dit, c'est une enquête qui a été réalisée du coup sur le début de l'année 2022. On a eu 496 personnes qui ont été interrogées, que ce soit des anciens ou des actuels étudiants. Et donc, il y a quatre axes majoritaires qui ont été constatés. Premièrement, le fait que l'islamophobie, donc du coup dans les universités, c'est une discrimination qui est systémique, dans le sens où les premières personnes qui sont touchées par ces exclusions, ces restrictions qui sont injustifiées, c'est des étudiantes musulmanes et en particulier celles qui portent le voile. Donc c'est une discrimination qui est très genrée. Certaines universités appliquent des règles qui restreignent la liberté religieuse des étudiants. Ensuite, on a constaté un climat de stigmatisation et de contrôle, dans le sens où on a des étudiants qui témoignent d'un sentiment de surveillance dans les universités et d'un climat qui est assez pesant sur eux dans certaines institutions. On a également des enseignants ou des personnels universitaires qui adoptent des comportements assez discriminants sous le prétexte de la neutralité et de la laïcité dans les établissements universitaires. On a aussi des obstacles au signalement et au recours dans ce genre de situation. Y a peu de dispositifs qui existent pour pouvoir signaler ces discriminations. Et quand elles sont dénoncées, elles sont peu reconnues ou peu prises en charge par ces grandes instances. Et du coup, les étudiants se retrouvent souvent sans solution ou sans protection face à ces discriminations. Et enfin, il y a un impact concret de cette islamophobie sur la réussite des étudiants, en particulier musulmans, parce qu'elles ont des conséquences directes sur leurs résultats. Il y a un sentiment d'exclusion de ces étudiants-là par rapport aux autres étudiants. Ils ont des difficultés à suivre certains cours et il y a même du découragement de la part de ces étudiants, voire un abandon de leurs études suite à des discriminations qui peuvent être assez traumatisantes parfois.
C'est assez intéressant, mais donc on a encore pas mal de progrès à faire. Est-ce que vous diriez que c'est encore difficile de porter le voile aujourd'hui à l'université ?
Actuellement, non. Personnellement, je suis à l'université et je porte le voile. Je ne ressens pas de malaise particulier, ou du moins à l'université de Tours, je trouve que ça va personnellement. De toute façon, il y a toujours du progrès à faire, que ce soit en termes de sensibilisation, en termes d'information sur cette problématique-là, et en termes de protection surtout. Voilà.
J'ajoute juste un petit point parce que c'est important de préciser. Étant représentant du coup de cette association, on est pas mal amené à recevoir des témoignages de certaines personnes qui ont envie de se confier, etc. Donc là, du coup, ce que dit Dounia est totalement pertinent et certainement vrai. Je ne doute absolument pas. Mais je pense que ça diffère beaucoup selon les campus parce qu'il y a certains campus desquels j'ai reçu des témoignages qui démontrent l'inverse ou qui poussent à croire que ce n'est pas le cas là-bas. Que ce soit sur le campus de lettres et langues, certains professeurs. Alors, ça peut être un petit peu contradictoire, mais ça arrive. J'ai déjà eu des témoignages de lettres et langues, la fac de droit également. Donc, je pense que ça diffère selon les campus. Et je pense que de manière générale, et ça rebondit avec le point que j'aborderai juste après, mais de manière générale, je pense que c'est pas forcément à l'université que c'est difficile de le porter, mais plutôt en France de manière générale. Parce que, à titre d'exemple, on a fait il y a très peu de temps une enquête sur laquelle on a demandé en fait aux gens de témoigner sur les actes un petit peu discriminatoires et islamophobes qu'ils ont pu recevoir, qu'ils ont pu vivre récemment. L'enquête date littéralement de il y a 2-3 semaines, il me semble. On a reçu en 48 heures une quarantaine de réponses, une quarantaine de témoignages, et effectivement, on lit des choses qui sont un petit peu absurdes. Enfin, je veux dire. On m'a craché dessus dans la rue, juste des choses comme ça. Et comme elle a si bien souligné Dounia, c'est un racisme qui est très genré. Toutes les enquêtes, elles le montrent. L'islamophobie, c'est, il me semble, 80% des cas recensés, ça, c'est des femmes. 20% c'est des hommes. C'est le seul racisme qui est autant genré. Et ouais, effectivement, je pense que c'est plus en France, de manière générale, dans l'espace public, que c'est difficile de le porter. Évidemment, du coup, ça recouvre également l'université. Après, je pense que ça dépend vraiment des campus et des expériences de chacun. Mais voilà.
Alors, vas-y. Non, je t'en prie.
Du coup, quelles évolutions est-ce qu'on peut constater aujourd'hui, que ce soit à l'UT pardon, ou dans l'espace public ?
Est-ce que tu peux répéter, excuse-moi ?
Quelles évolutions est-ce qu'on peut constater, que ce soit dans l'espace public ou à l'université directement ?
Sur le...
Positivement ou négativement ?
Ouais. Alors, je dirais que forcément, ça passe. Je pense que ça passe par une institutionnalisation, hein, c'est-à-dire que tout découle, on va dire, de ce qui se passe un peu plus haut. Donc, on va dire toutes les lois et toutes les volontés gouvernementales et politiques. Et en ce sens, c'est des évolutions qui sont un petit peu inquiétantes. On a pu voir dernièrement les propos qui ont pu être tenus par Monsieur Retailleau, donc ministre de l'Intérieur, ou encore. Par M. Retailleau, juste déjà, ça suffit. Par M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui, qui avait pour volonté d'interdire le voile à l'université, qui avait également pour volonté d'interdire le voile aux accompagnatrices scolaires, en sortie scolaire. Idée sur laquelle les universités elles-mêmes se sont opposées en ne comprenant pas, etc. Bon. Donc on a des évolutions qui sont un petit peu inquiétantes, on va dire un petit peu plus à l'échelle nationale, tout ce qui va être au niveau institutionnel. À l'échelle locale, je n'aurais peut-être pas de réponse aussi précise.
À l'échelle locale, alors j'ai pas d'évolution parce que j'ai pas eu assez de temps d'évaluation. Enfin, moi j'ai pris en tout cas le mandat de la présidence en mai 2023. On est en mars 2025, en avril 2025. donc j'ai pas eu assez d'évaluation sur ce problème pour en déterminer une évolution. Mais en tout cas, je sais que sur le campus, à l'université de Tours, nous à UMF, on entretient de très très bons liens avec l'université, on s'entend très bien avec eux, avec les services de l'université, même avec les services du CROUS, on s'entend plutôt bien avec tout le monde, on s'est plutôt bien intégré dans cette sphère un peu d'association universitaire et
de vie étudiante, ouais.
C'est ça. Donc moi pour le moment je garde une note positive de cette évolution, mais je pense que ça reste à déterminer sur plusieurs années pour pouvoir avoir quelque chose de plus objectif.
Mais tant mieux, on peut s'en réjouir déjà. Ouais. Parce que, alors, du coup, ma prochaine question elle sera peut-être un peu plus difficile à répondre. C'est donc la force d'EMF, c'est un gros organisme, parce que vous êtes présent partout en France, mais est-ce que même en étant un grand groupe, vous pouvez rencontrer des obstacles et parfois des remarques déplacées ?
Forcément, en étant un grand groupe, on est forcément plus visible et on est plus à même d'être visé par des critiques, qu'elles soient virulentes ou non, mais parfois beaucoup, enfin parfois très virulentes. Je dirais qu'en fait, le fait que ce soit un gros organisme, le fait que ce soit une fédération nationale, ça apporte, ça a ses forces comme ça a ses faiblesses. Mais je pense que ça a plus de force que de faiblesse parce que ça nous rajoute une certaine crédibilité, parce que ça permet de démontrer en fait toute l'aide qu'on peut apporter, que chaque section peut apporter sur tout le territoire français. Et ça, mine de rien, ce n'est pas rien. Par contre, ouais, effectivement, sur les faiblesses, c'est qu'on est beaucoup plus à même d'être visé par des critiques, par des accusations qui sont très souvent fausses, etc., juste par des groupes qui ne sont pas forcément d'accord avec les idéologies ou par des groupes qui sont peut-être racistes, etc. Donc forcément, oui, ça a ses forces et ses faiblesses. Mais pour moi, ça a plus de forces que de faiblesses.
Et alors, le 15 mars, c'était la journée de lutte contre les discriminations et vous avez organisé des conférences et ateliers afin de déconstruire les préjugés et promouvoir l'inclusion. Qu'est-ce qui a été organisé exactement auprès de EMF et comment vous l'avez vécu cette journée ?
Le 15 mars, précisément, c'était la journée internationale de lutte contre l'islamophobie. Ça apporte à la confusion parce que nous, on a beaucoup parlé de discrimination. Mais on en a profité, oui, pour parler de la lutte contre l'islamophobie. Également de la lutte contre les discriminations parce qu'on considère que chacune des discriminations mérite d'être combattue à juste titre, hein, que ce soit l'islamophobie, l'antisémitisme, le sexisme, etc. Chacun de ces racismes mérite son combat et sa lutte. Sur ce 15 mars, on a fait pas mal d'événements. On a fait du coup des conférences et des ateliers. Je laisserai Dounia s'exprimer sur les ateliers parce qu'elle s'est pas mal occupée de ça. Mais au niveau des conférences, on a pu faire du coup une petite conférence que j'ai pu animer sur le cas de la contextualisation de l'islamophobie en France. Donc contextualisation du cas de l'islamophobie en France en expliquant un petit peu d'où est-ce que ça vient, comment ça s'est institutionnalisé, donc avec les lois de 2004, la loi de 2010, etc., etc. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et on a pu avoir une seconde conférence très très intéressante avec un grand docteur, docteur Lina Chami, qui a pu nous expliquer, donc qui est psychiatre, et qui a pu nous expliquer les conséquences du racisme, de l'islamophobie, sur la santé mentale des jeunes, qui est assez, c'est un petit peu quelque chose qu'on laisse sur le bas-côté, alors que ça a son importance. Et donc elle a pu très bien nous expliquer quelles sont les conséquences, on va dire, de toutes ces discriminations sur la santé mentale des jeunes. Et ça a été très bénéfique et c'était très intéressant. D'ailleurs, on tient à la remercier.
C'est une psychiatre qui est déjà passée sur nos ondes dans l'émission La Méridienne de Mélissa. Donc, on vous invite à aller l'écouter. J'adore. En ce moment, je fais plein d'autopromos dans les émissions.
Et du coup, pour la partie atelier, ce qui a été organisé, ça a été des jeux de rôle. Donc il y avait deux groupes parce qu'on était assez nombreux et chacun du coup avait une mise en situation avec pour chaque participant un rôle avec une pseudo-identité et une opinion et chacun devait débattre du coup sur le problème en question. Avec son opinion. Donc c'était assez marrant. Il y en a qui se sont bien prêtés au jeu. Il y en a qui s'écorchaient quand même la bouche à dire des absurdités, mais c'est animé pas mal le débat et c'était assez révélateur quand même de tout ce qu'on peut entendre. Et pour le retour de certaines participantes, c'était... elles nous ont dit, en fait, on a juste répété ce qu'on entendait à la télé et sur les médias. Et en fait, c'est ça qui nous a donné les arguments pour ce débat. Donc voilà, franchement, c'était très enrichissant et ça a beaucoup plu. Donc à refaire.
D'ailleurs, sur cette journée, on a eu la chance d'avoir l'adjointe au maire, Madame Quinton, Marie Quinton, qui a pu du coup assister à ces activités-là. Et ça me fait penser parce que sur ces activités-là et toutes ces absurdités qu'on en vient à dire... ça permet en fait de prendre vraiment le rôle de la personne d'une personne quelconque qui peut tenir ses propos sérieusement et de se rendre compte de l'absurdité des propos. Et ça permet vraiment de conscientiser. Et je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs exercices. Mais je tenais juste à apporter cette précision.
Surtout si c'est des exemples qui sont pris à la télévision, c'est assez inquiétant. Et donc parmi les activités de l'association, il y a des ateliers aussi autour de l'éloquence. Et il y en a un aujourd'hui à la faculté Grandmont de 18 à 20 heures. Comment se déroulent ces ateliers ?
Alors, on a prévu de faire plusieurs séries de cet atelier, histoire de bien accompagner les participants sur une phase un peu débutant sur les premiers ateliers et essayer de les faire évoluer vers une éloquence un peu plus développée sur la fin. Donc sur les premiers ateliers, ça va vraiment être des exercices basiques, des exercices de prise de parole, des exercices de posture et un peu travailler sur la confiance en soi quand on prend la parole. Et le but, c'est d'évoluer, pourquoi pas, vers peut-être même un concours d'éloquence, qui sait.
Et alors, tu disais, Donia, en début d'émission aussi, il y a tout un pôle culturel pour développer l'esprit critique des étudiants. Donc, vous organisez des cafés, des ciné-débats, des petites conférences. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Alors, on a organisé deux ciné-débats et deux cafés-débats. Jusqu'à maintenant. Donc le premier ciné-débat, on reste dans le thème, hein, c'était sur la loi de 2004 sur l'interdiction de port de signes religieux dans les établissements scolaires. Ça a très bien fonctionné d'ailleurs. La projection a beaucoup plu, le film a beaucoup ému et ça a valu un temps d'échange assez dynamique après. On a eu un deuxième ciné-débat sur les agressions sexuelles faites aux femmes et la banalisation la banalisation et les aberrations qui peuvent sortir de certaines bouches suite à ces problèmes. Alors, on a eu beaucoup moins de participants sur celui-ci, parce que je pense que c'est un sujet qui est un peu plus touchy. Mais en tout cas, les participants qui étaient là ont beaucoup aimé et ça a permis d'un peu libérer la parole sur certains problèmes. Et ensuite, on a eu deux cafés-débats. Le premier, c'était sur les stéréotypes et les discriminations. Et le deuxième, il était sur les réseaux sociaux, moyens de communication ou de division. Qui a été animée par une de nos adhérentes qui a très bien géré l'événement d'ailleurs du coup les deux événements ont beaucoup plu. Enfin, le premier avait énormément plu et c'est pour ça que du coup on l'a répété et le deuxième avait pas mal plu aussi. Voilà.
Merci à toi, on va faire une nouvelle pause musicale sur Radio Campus Tour. On écoute le titre Sola de Rochani.
Ya, te has vuelto más
C'était Sola de Rochani sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Vous écoutez l'émission Sortez et avec nous l'association étudiants musulmans de France. Et pour les représenter, Noam, vice-président, et Tounia, la présidente. En termes de besoins maternels, matériels, de quoi avez-vous le plus besoin au sein de l'association ?
Wow.
D'un biberon. Ouais.
La première réponse qui m'est venue en tête, c'est des sacs pour les distributions alimentaires. Ah, c'est vraiment la première réponse qui m'est venue en tête. Des sacs pour les distributions alimentaires. Des sacs et des flyers. Alors là.
Moi, la première réponse qui me vient en tête, c'est un local. Mmh. C'est une demande qui se creuse de plus en plus au fil des mois. On n'a aucun lieu de stockage pour nos distributions. Donc en fait, soit ça se fait en flux tendu, soit on embête d'autres associations pour pouvoir stocker chez eux ou des bénévoles. Noam pourra en témoigner, son appartement étudiant.
J'ai un 18 mètres carrés, j'ai 3 mètres carrés qui sont dédiés à des paquets de pâtes.
Donc voilà le besoin premier, je dirais, de l'association depuis maintenant 2 ans. Hein, c'est un problème qui traîne, mais malheureusement, la demande de... elle est beaucoup trop forte à l'échelle de la ville. Les associations sont très, très demandeuses et il n'y a pas assez de locaux. Donc, c'est assez compliqué de pouvoir en dégoter un. Mais j'espère que ça pourra nous parvenir dans les prochains mois.
Ah, on espère.
Et alors, si on veut devenir bénévole de l'association, à qui est-ce qu'on peut s'adresser ?
Alors généralement on recommande de passer par le compte Instagram, donc c'est un petit peu là où on centralise toutes les informations on va dire extérieures, donc là on met tous nos événements, etc. Pour devenir bénévole, c'est très simple, il suffit simplement d'envoyer un message ou de venir nous voir en vrai durant un de nos événements pour nous rencontrer, pour qu'on puisse échanger et voir un petit peu les gens, enfin rencontrer on va dire vraiment les personnes qu'on a en face de nous, comprendre leur motivation, même pour nous-mêmes, c'est toujours intéressant. Et puis après, on n'est jamais amené à refuser qui que ce soit. On accepte tout le monde et directement, on permet aux gens d'être missionnés sur certaines missions. Mmh. Pendant la campagne à Montréto, c'est un très bon exemple parce qu'on a énormément de nouveaux bénévoles et on a eu énormément de bénévoles tout court d'ailleurs pour une logistique aussi grande. Lundi, mercredi, jeudi, on est forcément amené à avoir pas mal de bénévoles. Et généralement, ils nous contactent sur Instagram en nous disant « on veut devenir bénévole ». On leur dit « bah écoutez, on a cet événement associé à ce moment-là, n'hésite pas à venir pour nous rencontrer ». Ils viennent, on les rencontre et voilà. Ils sont ajoutés.
Et du coup, en tant que bénévole, quelles tâches est-ce qu'on peut être amené à réaliser ?
Alors, c'est très divers et varié. Dounia l'a dit tout à l'heure sur les cafés débats. De manière générale, on va dire sur nos événements culturels, on essaye beaucoup de mettre en valeur les bénévoles. Et bah, pour vous dire, sur les deux ciné-débats, à part le, bon, on a fait le premier ciné-débat, donc c'était le premier de l'année, celui que j'ai pu lead du coup. Mais sur le deuxième ciné-débat et sur les deux autres cafés-débats, c'était pas des membres du bureau, il me semble. Peut-être sur le deuxième café-débat, mais en tout cas sur le deuxième ciné-débat, pardon. Mais sur les deux cafés-débats, c'était pas des membres du bureau, c'était des bénévoles. Donc le premier, c'était une bénévole qui s'appelait Aïcha et Lounès. Et sur le deuxième, c'était du coup une autre bénévole qui s'appelait Adjira. Et donc on essaie de mettre en valeur nos bénévoles comme ça en leur donnant le lead de certains événements sur lesquels ils se sentent bien, en leur donnant aussi une liberté sur le choix des sujets qu'ils veulent aborder, etc. Mais sinon ils ont aussi des missions classiques, hein, des missions de logistique, là, pendant la campagne à Moi et Toi il y a pas mal de bénévoles qui étaient véhiculés, qui allaient chercher les repas à droite à gauche, d'autres bénévoles qui tout au long de l'année se chargent de faire les colis alimentaires, parce que mine de rien ça reste un travail. Donc faire les colis, compter qu'il y ait bien également, enfin qu'il y ait bien une partie égale dans chaque colis, etc., etc. Donc c'est vraiment très divers et varié. Je pense que les missions bénévoles, c'est une des forces aussi de l'association.
Et alors depuis que vous êtes membre, quel a été votre souvenir le plus marquant au sein de l'association? Est-ce que Noam, ça fait partie du ciné-débat que t'évoquais là avant qu'on reprenne l'antenne ou pas?
Les membres, enfin le moment pardon le plus marquant. Ouais. J'ai besoin d'un petit moment pour réfléchir. Je vais laisser Dunia répondre parce que je pense qu'elle aura plus d'événements en tête que moi.
Un événement le plus marquant, alors moi je dirais en fait c'est ça, j'hésite entre deux périodes. En fait ça va être les grandes campagnes de MF, que ce soit les campagnes Un mois et toi, donc comme on a vu cette année, qu'on répète tous les ans, mais il y a aussi la campagne Active ta fac. C'est la grande campagne d'élection qu'on mène sur les périodes des élections aux conseils centraux. Et moi, le souvenir qui m'est venu en tête, c'est la première campagne de MF Tour. On se sentait pas prêt du tout. On n'avait jamais. En fait, déjà, c'était pour la plupart leur première année d'engagement dans l'associatif. Il n'y en avait aucun qui savait ce qu'étaient les élections aux conseils centraux. Personne ne le savait. Donc, en fait, il y a eu une première phase de sensibilisation pour informer les étudiants et nos bénévoles, surtout, de qu'est-ce que c'est que les élections, pourquoi c'est important.
Il a fallu essuyer les plâtres.
C'est ça, exactement. Et ensuite, il fallait se lancer. Donc, il fallait monter une liste, il fallait mobiliser des bénévoles, faire un petit planning où on allait aller dans les facs, faire des interventions dans les amphithéâtres, distribuer des flyers. Et en fait, c'était un pied dans l'inconnu. Et au final, ça nous a quand même valu un siège. On a quand même réussi à obtenir un siège. On était partis en se disant... on essaye, au moins ce sera une formation. On n'est pas sûr d'avoir quelque chose, mais au moins on en ressortira formé pour les années à venir. Et au final, on a réussi à obtenir un siège malgré tout. Donc voilà.
Il y a beaucoup d'événements qui me sont venus en tête. Bon, très rapidement, j'ai eu l'événement avec lequel j'ai découvert EMF. Donc c'était sur la campagne à moi et toi de l'année dernière. Et c'était du coup pendant la période du Ramadan, je vivais tout seul, c'était ma première année d'université, donc je mangeais tout seul tous les soirs. Et c'est vrai que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien d'arriver dans un endroit où je connaissais personne.
Et quel bonheur de découvrir Live Tour.
Vraiment, mais Live Tour incroyable. J'étais au milieu de ma famille, je rigolais avec tout le monde, c'était incroyable. Mais après, en termes d'événements, je pense qu'il m'a marqué. C'est spécifique parce que je ne l'ai pas vécu, à ce moment-là, je n'étais pas là. Mais j'étais hyper fier de l'équipe. C'était y a eu une campagne qui a été menée qui s'appelait Opération Sans Fin le 25 décembre à l'échelle internationale, donc par une organisation du coup qui s'appelle OSF et qui visait à donner des repas à un maximum de personnes dans le besoin le 25 au soir, le moment où ces personnes-là passaient peut-être pas des moments en famille ou n'avaient peut-être pas les moyens de passer un bon moment. Et je me souviens oui, que durant ce jour-là, j'étais extrêmement fier de nous parce qu'on a pu distribuer près de 180 repas en une soirée à tout plein d'étudiants. Et franchement, c'était quelque chose. Et nos bénévoles et même le bureau, ils avaient vraiment beaucoup géré. Ça m'a marqué.
C'est ce qui te rend le plus fier
Très, très fier ce jour-là. J'étais vraiment très fier. Mais après, il y a vraiment pas mal d'événements qui sont bien. Je vous dis, c'est la meilleure association du monde. Donc,
En toute objectivité, bien sûr. Et bah, quels sont les prochains événements sur lesquels on va pouvoir retrouver la meilleure association du monde, a.k.a. EMF Tour?
Déjà, on a l'événement Eloquence, l'atelier Eloquence de ce soir. Après, il y a une table ronde qui est en préparation par une de nos bénévoles qui aimerait animer une table ronde sur comment est-ce que on peut influencer l'opinion les systèmes nerveux et comment est-ce que on influence l'opinion que ce soit à travers les médias, que ce soit du bouche à oreille, etc., etc. Donc, il n'y a pas de date pour le moment, mais ça tombera sur les deux dernières semaines d'avril, un jeudi, très probablement. sinon, il y a une distribution qui devrait arriver jeudi prochain. Et ensuite, de toute façon, ce sera à suivre sur le Insta pour le reste. Il y a des petits événements qui sont prévus, mais il n'y a pas de date définie pour le moment. Ouais. Mais voilà.
Il y a pas mal d'événements, mais pas de date. Il y a certainement des cafés débats qui vont arriver, un ciné débat, si le bureau est OK. Donc, ouais, il y a pas mal de choses qui vont arriver et tout ça, on le retrouve directement sur Instagram. Donc, EMF-Tour.
Super. Et alors, qu'est-ce que vous diriez aux étudiants pour rejoindre l'association ?
De ne pas se fier au nom. De ne pas penser que c'est réservé à une certaine catégorie de personnes alors que ça ne l'est pas. Et de venir s'y essayer, parce qu'une fois qu'ils viendront s'y essayer, ils comprendront que, en toute objectivité, c'est la meilleure association du monde. Et que, non, sérieusement, que c'est vraiment un cadre très, très, très sain, très familial, et c'est un des meilleurs cadres. Enfin, dans l'association, on a eu des bénévoles non musulmans qui se sont vraiment sentis bien. Oui. Même cette année, j'en pense à certains, on en a eu. Donc, ouais, c'est franchement. C'est un très très bon cadre et vraiment il faut venir s'y essayer et pas forcément prêter d'attention ou alors de supposer sur l'association, juste venir s'y essayer.
Mais il y a quelque chose qui m'a marqué la dernière fois que tu étais venue donc, pour présenter Un mois et toi à la radio, c'était que justement ça permettait aussi de lutter contre l'isolement social et que tu as pu en bénéficier pour ça et que tu avais trouvé ça formidable.
Ça rebondit sur ce que je disais durant le ramadan de l'année dernière. Du coup, je passais beaucoup de temps tout seul. Et même moi au début d'année, avant même que je découvre l'associatif, j'étais toujours tout seul. Et vraiment toujours tout seul. J'arrivais dans une ville où je connaissais vraiment personne et j'arrivais pas forcément à rencontrer des gens ou à me faire des amis. Et c'est vrai que MF, avec la campagne Un mois et toi, ça m'a quand même libéré de ça. Et moi personnellement, c'est un truc que je considère quand même comme important, lutte contre l'isolement social. Il y a beaucoup d'étudiants qui restent cloîtrés chez eux, qui n'ont pas forcément de choses à faire, qui n'ont pas forcément de gens qui peuvent les tirer pour faire des choses. Du coup, nous, on propose les deux. On met des trucs en place qui sont à faire et on les tire pour qu'ils viennent les faire. Donc voilà, c'est un combat qui nous tient à cœur au même titre que la lutte contre la précarité et au même titre, que la lutte contre les discriminations et l'islamophobie.
Eh ben, merci beaucoup, Noam et Dounia, pour votre participation au nom d'EMF Tour.
La meilleure association du monde.
Alors, retenez bien ça, la meilleure association du monde. Et donc, on va laisser place à une chronique de No Name, aussi connue sous le nom de Samuel, exactement, sur The Flash.
Bienvenue dans No Name. Aujourd'hui, on parle d'une série qui me fout le seum, The Flash.
My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. When I was a child, I saw my mother killed by something impossible.
Barry, what?
My father went to prison for her murder. Then an accident made me the impossible.
Diffusé sur la chaîne TF1 en France et sur CW aux États-Unis depuis 2014, The Flash est une série américaine basée sur le personnage iconique de Flash. Au total, c'est 184 épisodes d'une durée moyenne de 40 minutes répartis sur 9 saisons. Au casting, on retrouve Grant Gustin, qu'on retrouve dans Glee. Il joue Barry Allen, The Flash. Candice Patton en Iris West Allen, Carlos Valdez, Cisco Ramon, le personnage de Vibe, Daniel Panabaker, le docteur Caitlin Snow, la Killer Frost, qu'on retrouve aussi dans l'école fantastique, Tom Cavanaugh en docteur Harrison Wells dans toutes ses versions du multivers, il joue également Eobard Thawne et Reverse Flash dans la série, ainsi que Jesse L. Martin, le lieutenant puis capitaine Joe West. Entre autres, il y a aussi Daniel Nicolette en Kenyan Lonsdale, il joue Kid Flash, Neil Sandilands, le Clifford DeVoe et qui est l'antagoniste Le Penseur, Hartley Sawyer en Ralph DiBenny, Elongated Man et Jessica Parker Kennedy en Nora West Allen, la fille de Barry Allen dans le futur, ou plutôt connu sous le nom de XS. Allez, faisons un petit rappel de la série. Mary Allen, alors âgée de 11 ans, assiste à l'assassinat de sa mère, prise au piège dans un tourbillon d'éclairs, et son père est accusé pour meurtre, purgeant une peine pour un crime qu'il n'a pas commis. On retrouve Barry des années plus tard, travaillant en tant que scientifique pour la police de Central City. Un soir, Barry est frappé par un éclair provoqué par l'explosion d'un accélérateur de particules dans les laboratoires de Star Labs de Harrison Wells et sombre dans le coma pendant 9 mois. À son réveil, il découvre qu'il peut courir à des vitesses surhumaines et guérir de façon accélérée. Si vous voulez aller regarder la série, je vous conseille de la regarder jusqu'à la saison 5. Après ça, c'est Gonzo, c'est nul. À la base, moi, je suis pas trop compliqué en termes de série. Surtout que c'est une série qui a plus de 10 ans. Mais là, franchement, c'est chaud. Il n'y a que deux séries qui m'ont autant déçu dans ma vie, The Flash et The Sand. J'en parlerai aussi. En fait, je ne saurais même pas comment décrire comment est-ce que c'est possible de mal finir. Il y a des moments où tu as envie de te tirer une balle dans le pied. Ça devient goofy comme pas possible, ils ont tenté de faire un crossover tout ça pour rien, du nom de Crisis on Infinite Earth, prendre la place de l'intrigue principale de Barry, ce qui rend son univers chiant à mourir. Barry, il a vraiment pas la vision. Il a vraiment, vraiment pas la vision. Il aurait pu être en couple avec Supergirl, Caitlin, Felicity, Patty, Linda. Mais non, lui, il a fallu qu'il choisisse Iris. Iris, dès le début de la série, tu sais, la meuf, elle te fait tourner en bourrique. Barry, lui aussi, il sait pas mettre un tapine. Vous avez grandi ensemble et t'as pas réussi à lui avouer tes sentiments. Ça fait 10 ans que vous vous connaissez, 10 ans que t'es dans la friendzone. T'abuses un peu, non? Mais c'est pas toi avec Iris. Saison 3, Savitar qui revient dans le temps pour la tuer. Déjà dans cette saison, elle est exécrable. Non, franchement, une peste. Tout tourne autour d'elle parce que Barry est parti dans le futur. Il a vu sa mort, blablabla. Bref, épisode 20, on approche de la fin. Elle meurt? Mais non! C'est H.R. Wells qui se sacrifie à sa place. Savitar, t'avais qu'un job. Franchement, qu'un seul job. T'abuses, Savitar, t'abuses. Non, je vais m'arrêter là. C'est mieux parce que chaque personnage va prendre sa session vanne sinon. Flash compris, surtout lui là, c'est une galère. Et puis il y a aussi les effets spéciaux qui sont devenus de plus en plus merdiques et les scènes de combat. À un moment, Flash se combat aux côtés de Reverse Flash, déjà là il y a un problème, je comprends pas. Antagoniste, protagoniste qui font un ami-ami, mais c'est pas tout. Ils se battent avec des sabres laser. Des Jedi. Non, c'est pas une blague, allez voir. Écrivez Flash, The Flash, Lightsaber sur YouTube, vous avez trouvé. Comment est-ce que tu veux les prendre au sérieux? Maintenant, les combats, c'est plus des courses-poursuites dans toute la ville, ça se tape partout, ça casse des voitures, tout ça, non. Non. Maintenant, c'est Kaiou et bâton. Moi, je vais bien comprendre qu'il n'y ait plus d'inspi. Mais faites des efforts, les gars. Et puis, t'as tout le délire avec la Speed Force et Barry qui a littéralement créé des enfants. Créé. Attendez, je vous explique. En ayant ramené la force violence à la vie, Barry et Iris ont involontairement créé et libéré 3 nouvelles forces de la nature. La force puissante, la force immobile et la force sage. Toutes les trois liées à des individus normaux qui sont leurs hôtes, il semblerait que Barry et Iris soient leurs créateurs et que leurs forces soient leurs enfants. Et tout ça, ça va trop loin. Moi, je veux bien comprendre qu'on s'inspire des comics et tout ça, mais là, ouais, là, c'est chaud. C'est une série qui a perdu son essence et un moment mémorable. À chaque saison, t'as toujours quelque chose qui te rattache un peu à cette saison. Personnellement, moi, c'est dans la saison 1, comme de par hasard. Cisco qui découvre le secret d'Harrison Wells, qui est en fait Reverse Flash et qui se fait tuer. J'avais pas de mal au cœur et encore aujourd'hui, je me dis, cette scène, c'est une des meilleures de la saison. Pour finir, on se laisse sur le crossover, si on peut appeler ça comme ça, avec le Flash de Ezra Miller, qu'on retrouve avec la Justice League, qui rencontre celui de la CW avec Green Gustin. C'était Noname sur Radio Campus Tour. A plus.
Hello? What the hell is this?
I'm asking myself the same question. Literally. No, this can't be happening. What are you doing here?
Well, I'll tell you that when you tell me where here is. Is this cosplay? Oh, do you want a selfie, bro?
No, I'm sorry. No. I'm also the Flash.
You're also the what?
The Flash?
The Flash? The Flash.
It's complicated.
I like your outfit. It seems
comfy.
Yours is pretty cool.
Smooth.
Seems safe.
It's breathable. Found Barry Allen. No! What does that mean? How can this...
This should be impossible now.
It should be impossible now?
You don't know about the...
Oh my God, don't do this to me. I don't know about the what?
C'était la chronique de No Name et qui est la mienne sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Bah, magnifique émission aujourd'hui avec nos chers invités. Le podcast de l'émission est à retrouver sur radiocampustour.com. On sélectionne une touche de musique avec Bénédicte et son titre Couler nos navires. Et nous vous souhaitons une agréable soirée.
Bonne soirée. Rame donc. Rame, Samuel.
On va passer à une prochaine question. Comment est-ce que je peux faire ça? Hop. Magnifique. Ça sort pas.
Radio Campus Tour. 99.5 FM.